Vous savez, vous communiquez beaucoup de choses avec votre visage. Hein? Alors, j'aimerais bien qu'on fasse un petit, tout petit exercice pour commencer. J'aimerais bien que vous me montriez le visage que vous aurez si Bill Gates vient, en réalité, pas seulement sur Internet, parce que je sais que tous les jours, Bill Gates, il va vous donner 10 millions de dollars sur Internet, mais si Bill Gates vient et dit, ah, oh, je suis tellement gentil aujourd'hui, je vais vous donner à chacun 1 million d'euros. Laisse-moi voir le visage que vous me donnez. Certains d'entre vous, c'est pas. Vous êtes toujours mort. Montre-moi le visage que vous aurez si aujourd'hui le Seigneur, dans cette réunion, guérissait une personne qui était paralysée, un paralytique. Mais vraiment, il sortait de cette réunion en train de bondir et crier la louange du Seigneur. Montre-moi le visage que vous aurez. Un peu mesmérisé, hein? C'est ça. Alors, j'aimerais bien que vous vous teniez debout sans dire un mot, comme j'ai dit plusieurs fois, parce que je vous connais trop bien. Une fois commencé de parler, c'est fini. Mais levez-vous et tournez vers 5, 6, 7 autres personnes. Flash-les le plus grand sourire que vous possédez. Hein? Et puis, reprenez votre place. Alléluia. Alors, Hugo, tu es prêt? On va y aller maintenant. On va essayer de faire mieux à peu près cette fois, Samuel. Ce matin, j'avoue que j'avais un peu peur en préparant ce message. Parce que ce que le Seigneur m'avait mis sur mon cœur, ce n'était pas exactement standard. Il n'y a pas si longtemps que ça, je suis tombé sur un livre d'un homme qui, quand il était au lycée, lui, il faisait l'effort minimum pour réussir. C'est-à-dire, il faisait juste ce qu'il fallait pour avoir le diplôme après. Alors, ça veut dire qu'il n'a pas appris autant qu'il aurait pu apprendre. Et je me suis dit, voilà un homme que j'apprécie bien, parce que c'était exactement moi. Alors, vous, les profs, pardonnez-moi, mais enfin, vous voyez les jeunes, les résultats de ça. Faites pas comme moi, mais de toute façon, il a dit, après, j'ai commencé à m'intéresser vraiment aux choses, des questions que je posais sur la science, la physique, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et lui, puisqu'il était un grand auteur, il avait accès à beaucoup d'experts, beaucoup de grands scientifiques qui pouvaient poser des questions. Et il a écrit un livre à la portée de tout le monde, même comme moi, que vous pouvez comprendre. Alors, j'avoue, dans la classe de sciences, j'en ai mis boucher les oreilles, s'il te plaît, mais dans la classe de sciences, je m'intéressais plus aux deux filles qui étaient à la table derrière moi qu'aux profs qui étaient devant moi. Mais ça, c'est une confession longtemps après. Mais je n'ai pas trop appris. Mais en lisant ce livre, je me suis dit, waouh, il y a des choses incroyables. Et j'ai commencé de voir la gloire de Dieu dans sa création. J'ai appris, par exemple, que si vous voulez voyager dans cet univers, okay? Alors, voilà le deuxième peur que j'avais. Je me dis, Seigneur, écoute, déjà, quand ils étaient dans la classe de sciences, le cerveau était un peu paralysé. Maintenant, le dimanche matin, c'est encore pire. Mais vous êtes exceptionnel. Vous sortez de l'ordinaire. Vous n'êtes pas comme tous les autres. Oh là là, comme Lévi, là, il reste toujours réveillé. Même quand je suis ennuyant comme tout, il reste réveillé. Tu es bien, Lévi, c'est bien. Mais et vous aussi, vous êtes de même style que lui. Alors, restez avec moi. Si vous voulez voyager pour traverser notre univers et vous sautez dans votre navette spatiale, le Starship Enterprise, avec le Monsieur Spock. Vous connaissez Monsieur Spock? Vous connaissez Monsieur Spock? Ouais. Alors, et vous voyagez à la vitesse de lumière, qui est assez vite. Amen. C'est plus vite que Élie roule sur l'autoroute, Lévi roule sur l'autoroute, n'est-ce pas? Un peu. Et ça, il vous faut 14 milliards, 14 milliards d'années de lumière d'aller d'un côté de l'univers à l'autre. Si c'est peut-être plus. la plupart d'entre nous, nous serons morts avant d'y arriver, n'est-ce pas? Dans le monde visible, l'univers visible, il y a 140 milliards de galaxies qui sont visibles. 140 milliards! Et là, ce n'est pas tout. Parce qu'on suppose, certains scientifiques, ils supposent, et ils ont une idée bizarre, comme en anglais, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé une bonne traduction en français, mais les string theory. C'est-à-dire, il y a d'autres dimensions. Et la nôtre, c'est seulement une dimension, mais pendant que dans notre existence, il y a d'autres mondes, d'autres univers qui sont superposés, pas superposés, mais qui existent en même temps de nous, dans une autre dimension. Ça, je crois. Vous ne réagissez pas? Ça, je crois. Parce que je crois qu'il y a une dimension où habitent les anges de Dieu, les démons, où est le trône de Dieu. Dieu, il est au-dessus de tout. Il est dans toutes ces deux dimensions. Mais ça existe aussi. Il y a des choses incroyables. C'est dans cet univers que nous voyons, quelque part, je vois la gloire de Dieu. Mais autant qu'il y a un univers aussi plus grand que nous, il y a aussi un univers plus petit que nous. Parce qu'en dessous de nos pieds, sur notre corps, partout, il y a un monde invisible que jusque dernièrement, on ne savait même pas que ça existait, on ne pouvait pas voir. Mais maintenant, avec les microscopes incroyablement forts et puissants, vous pouvez voir des choses que dans le temps étaient invisibles. On dit que les atomes, si vous avez 500 millions d'atomes, vous pouvez les cacher derrière un cheveu. C'est assez petit, n'est-ce pas? Mais aussi réel que les grandes choses. Parce que qui a dit que les grandes choses, ça vaut mieux que les petites choses? Alors, vous, les femmes, dites-moi, qu'est-ce que vous préférez? Un diamant un peu comme ça ou bien un caillou aussi grand que cette salle? Moi, je prendrais le diamant, n'est-ce pas? C'est beaucoup plus petit, mais beaucoup plus valable. Alors, dans l'existence, ce n'est pas le taille, la grandeur de quelque chose qui fait sa valeur. Et il y a un monde tout petit. Vous avez peut-être sur vous tout un écosystème. Vous savez, il y a sur votre corps maintenant, et dans votre corps, entre 10 et 100 milliers de milliards, petites molécules, bêtes, les choses vivantes qui grimpent, qui mangent. Vous êtes peut-être un contenant pour toutes sortes de petites bêtes qui fait du bien parce que ça mange la peau morte. C'est là qui est là. Des fois, si vous entendez... Peut-être c'est une vache minuscule qui est en train de brouter ta peau morte. Ça, c'est mon idée, hein. Mais là, c'est bizarre, ça me donne l'envie de gratter, vous aussi? Parce que de penser que tout ça, c'est sur moi, c'est en moi, mais pour la plupart, c'est bien. Alors, les toutes petites choses sont incroyablement petites, les grandes choses, on ne peut pas imaginer combien elles sont grandes, mais il y a un problème. Et ce problème, j'ai appris dans le livre, que c'est même M. Einstein qui ne pouvait pas réconcilier les deux mondes. Parce que c'est bizarre, le monde, le grand monde que nous connaissons bien, obéit à certaines lois et règles de physique, de toutes sortes de choses. Alors on sait un peu comment ça va réagir, parce que c'est toujours les mêmes lois, les mêmes règles. Mais le problème, les tout petites choses, c'est un autre monde avec d'autres règles. Et là, vous risquez, si vous voyez, vous avez votre microscope, je ne sais pas quoi, avec quoi il voit, mais il y a toutes des choses qui viennent à l'existence, la matière. Et puis, ça disparaît. Il y a des électrons qui, normalement, ils font faire un circuit et tout d'un coup, ils ne sont pas là. Ils sont là et on ne sait pas comment ils sont arrivés. On voit des choses bizarres. On dit qu'il y a des paires de photons qui, même s'ils sont séparés des millions de kilomètres, ils agissent de la même manière. À l'Université de Genève, là, ils ont fait une expérience. Ils ont envoyé deux photons dans deux sens différents. À 11 kilomètres de différence, ils ont fait quelque chose à une photon, et c'est l'autre qui a aussi réagi exactement comme si on lui avait fait la même chose. Mais quel était le lien? On ne sait pas. Parce que dans ce petit monde, il y a d'autres lois. Il y a d'autres règles. On ne sait pas pourquoi, mais on sait que ça existe. Et les scientifiques et les autres, ils ont profité de cela pour développer des nouvelles technologies. On appelle ça la nanotechnologie. Dans le siècle qui vient, probablement, un des mondes qui va vraiment s'ouvrir, c'est le nanomonde, les choses des tout petites. Et c'est merveilleux. Mais comme j'ai lu quelque part aussi que Einstein, ça lui rendait dingue presque. Et on a dit qu'il a passé la deuxième partie de sa vie en essayant de lier ces deux mondes pour trouver une loi supérieur qui régnait dans les deux mondes. Mais il ne trouvait pas. Parce que pour le grand monde, c'était ça. Pour le petit monde, c'était ça. Et lui, il voulait une règle, des lois qui allaient dans les deux, mais ça ne marchait pas. Alors, vous êtes toujours là? Alors, donne un coup de coude à votre voisin, votre voisine, parce qu'il y en a quelques-uns qui me regardent, mais qui sont ailleurs. Ils sont dans les espaces avec M. Spock maintenant. Je vois des biens. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, je crois personnellement. Et tu dis, David, c'est bien tout ça, mais je ne vois pas vraiment l'intérêt de tout ça. Pour moi, personnellement, le monde que nous voyons, c'est un reflet de ce que nous ne voyons pas. C'est-à-dire, quand on parle de semer et récolter, c'est un principe physique. Si moi, je sème de blé dans le champ, je récolte le blé, mais c'est aussi un principe spirituel. Ce que je sème, je récolte. C'est comme ça. Et je crois personnellement que cette idée de grandeur et puis de petitesse, ça nous montre, ça nous révèle quelque chose sur la nature et la caractère de Dieu. Pour moi, c'est le macro-Dieu et le nano-Dieu. Le macro-Dieu et le nano-Dieu. On va d'abord regarder ce macro-Dieu. Samuel, le deuxième là. Ah là là, moi j'aime bien cette photo. Ça vient de Hubble. Alors ça semble tout rien. Je ne peux pas tout expliquer, mais vous ne pouvez pas tout comprendre de toute façon. Alors nous sommes bien. Mais là, c'est un nuage de gaz qui est 3 milliards d'années de lumière avec des étoiles qui sont nées. Je ne sais pas quoi. Mais c'est beau, n'est-ce pas? Et Dieu a créé ça. Et ça, c'est une petite chose. Ça, c'est seulement une toute petite chose qu'il a créée. Troisième Samuel. Alors, il dit ici, en parlant de ce macro-Dieu, de ce grand Dieu, de ce Dieu tout-puissant qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mes yeux. Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance, qui a sondé l'Esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils. Dernièrement, vous avez donné des conseils à Dieu. Moi, je lui donne beaucoup de conseils, Thierry, mais ne m'écoute pas. Il dit, je n'ai pas besoin de tes conseils, David, fais ce que je dis. Mais Seigneur, j'ai dit quelques idées si tu veux le faire. Mais il a dit, il ne m'a pas demandé pas. Il a dit, qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse? Et fait connaître le chemin de l'intelligence. Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. On se prend pour les grandes choses, les Américains avec toutes ces armements. Et le 4 juillet, le Champs-Élysées, on a toutes nos armes. Et la place rouge, le grand jour, tout ça. On se prend pour les grandes. Et pour Dieu, nous sommes des nano petites choses. Il a dit, qui lui a enseigné la sagesse? Les nations sont rien. Et puis, un peu plus tard, elles sont, les nations, comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu. Les animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. Ce Dieu, ce macro-Dieu, il est grand. Ce macro-Dieu, si vous voulez, il est puissant. Il a tout créé par la puissance de sa parole. Il a parlé et ça existait de sa bouche. Allez, le mot de création. Et on a vu, on appelle le résultat de ça le Big Bang. On a vu qu'il y avait un point où ça commençait. Et les scientifiques disent que c'est le Big Bang. Moi, je dis que c'est la big parole de Dieu. Amen. Il a parlé, ça existait, ça allait, ça partait de lui. Et avec toute cette puissance, il a créé ces choses que nous voyons là, qui sont au-delà de notre imagination. La force, la puissance, c'est un Dieu qui est tout puissant. C'est un Dieu qui est tout saint, tout pur. C'est un Dieu qui est tout juste, qui est tout bon. C'est aussi un Dieu qui peut tout faire, qui sait tout. Wow, ça dépasse notre imagination. Il y a un athée, Richard Dawkins, qui a écrit un livre pour en finir avec Dieu, un scientifique qui croit. Et lui, en se moquant, il dit, une telle largeur de bande. Ce Dieu ne pourrait pas avoir un cerveau construit de neurones, un CPU fait de silicium. Mais s'il a des pouvoirs qui lui sont attribués, il doit avoir quelque chose qui est construit, pas de tout par hasard, beaucoup plus minutieusement que le cerveau ou que l'ordinateur le plus puissant que nous connaissons. Il dit ça en se moquant. Moi, je dis, oui, tu as raison. Tout à fait. On n'a jamais vu quelque chose comme Dieu. Et c'est beaucoup, 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 beaucoup plus que cela. Amen. Il est tout puissant, notre Dieu. Mais vous savez, le problème, c'est que ce Dieu tout puissant, ça me fait un peu peur. Est-ce que vous avez jamais été tout près d'une grande bête comme un éléphant ou quelque chose comme ça? Vous avez peur qu'il va marcher sur ton pied ou bien sur ta tête, peut-être. Je ne sais pas. Il est grand, ce Dieu. En plus, il est saint. Il est saint. Ouh là là, quand je m'approche de lui, je vois toutes mes fautes, tous mes péchés, tout ce qui ne va pas. Et je me dis, oh Seigneur, pourquoi a-t-on besoin d'un grand Dieu comme ça? Pourquoi? D'abord, pour notre humilité. Nous, les êtres humains, on se prend pour des grands, des grands, des grands. On croit avec notre science, on a mis Dieu sur le banc de touche, on n'a plus besoin de Dieu. Vous savez, il y a 100 ans de cela, les plus grands scientifiques, ils croyaient que dans les espaces, il y avait de l'éther, une substance, ou comme ça, c'était la lumière qui voyageait. Il n'y avait rien de tout comme ça. Mais les plus grandes intelligences du monde. Et aujourd'hui, on croit beaucoup de choses que dans 50 ans, on va dire, oh, non, ils ne savaient pas. Parce que nous savons, chaque génération, ils croient qu'ils sont tellement intelligents qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. La Bible dit que le fou, l'insensé, dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Et celui qui dit qu'il n'y a pas de Dieu, il peut avoir toutes sortes d'éducation, mais il n'est pas sage. Parce qu'il y a une différence entre la sagesse et l'éducation. Il y a beaucoup de gens qui sont éduqués, qui ne sont pas sages. Alléluia. Nous avons besoin, pour notre humilité, de voir que lui, il est fort et nous sommes une molécule. Hein? Vis-à-vis de lui, nous sommes tout petits. Et ça, c'est bien. Parce que ce n'est pas moi qui fait marcher le monde. C'est le Seigneur qui fait marcher le monde. C'est lui. On a besoin de voir sa force parce que des fois, je suis faible. On a besoin d'être émerveillé. Il y a quelques années de cela, j'étais au Grand Canyon, là dans l'Arizona. Et en regardant cela, j'ai dit, wow, wow, wow. Seigneur, comment as-tu fait ça? C'est incroyable. Et pour le Seigneur, c'est une toute petite chose. Peut-être, qui sait, dans le ciel, dans le royaume du Seigneur, peut-être il va nous laisser voyager dans sa nouvelle création et on va voir des choses qu'il va nous faire. Waouh! Ouh! Ah! T'as vu ça? Tu veux venir avec moi pour les voir? Tu veux venir avec moi pour les voir? Sinon, restez ici. La crainte de Dieu. Il faut voir le Dieu qui est grand et puissant. Si vous ne craignez pas Dieu, vous êtes stupide. Excuse-moi. Mais si vous dites qu'il n'y a pas de Dieu, et vous me pardonnez, mais vous êtes stupide selon la parole de Dieu. La Bible dit que la crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Et vous n'avez même pas commencé la sagesse. Si vous ne craignez pas Dieu, si vous n'avez pas un respect pour Dieu, ce n'est pas la fin de la sagesse, ce n'est pas l'aboutissement de la sagesse. Je crois que ça, c'est entrer dans la profondeur de l'amour de Dieu. Mais la crainte, c'est le commencement. Comment ça marche? J'ai un ami congolais. Il m'a raconté une histoire. Il m'a dit, David, une fois, il y avait le lion, le léopard et l'hyène qui chassaient ensemble toute une journée. Et à la fin de la journée, ils avaient tué une montagne de gibier. Et là, le lion, il regarde, il parle au léopard, il dit, écoute, comment va-t-on distribuer, comment on va diviser tout cet gibier? Et le léopard, il dit, voilà, moi, je crois que puisque vous êtes le roi des bêtes, vous prenez le premier tiers, vous choisissez. Et puis, moi, je vais prendre le deuxième, c'est normal que je prenne le deuxième tiers. Et puis, le lion, il prend le tiers qui reste, les choses qui restent. Et le lion, il sautait sur le léopard. Il l'a griffé, il l'a jeté par terre, jeté contre un arbre. Et puis, il était en bas de l'arbre, en train de giser par terre. Il saignait, on ne savait pas s'il était mort ou vivant. Et puis, le lion se tourne vers le lion qui regarde tout ça. Et il dit, monsieur le lion, comment croyez-vous que nous devons partager tout ça? Il dit, bon, monsieur lion, vous êtes quand même le roi des bêtes. Bon, voilà, vous prenez le premier tiers. Et ta femme, quand même, et c'est une reine, elle aura le deuxième tiers. Et ton fils, c'est quand même un prince. Lui, il aura le troisième tiers. Et le lion a dit, oh là là, mais vous avez une grande sagesse, monsieur lion. Qui t'a appris cette sagesse? Celui-là. Des fois, on a besoin de voir que ce n'est pas nous le plus fort. Alors, Dieu n'est pas méchant comme monsieur le lion, il n'est pas injuste non plus, mais il est Dieu. C'est lui le patron. Moi, j'ai peur pour notre monde aujourd'hui. La Bible dit, vous ne vous moquez pas de Dieu. Vous ne vous moquez pas de Dieu. Et je vois un monde qui est en train de dire, Dieu, tes lois, on n'a pas besoin, laisse-nous tranquilles. On n'a pas seulement un monde qui laisse à côté les lois de Dieu. On se moque des lois de Dieu. On se moque de la justice. On se moque des gens qui marchent d'une manière qui plaise au Seigneur. La Bible dit que vous ne vous moquez pas de Dieu. Et je sais que si le monde ne se tourne pas de son péché plus tôt ou plus tard, ils vont récolter ce qu'ils ont semé. La Bible dit tout clairement, un homme récolte ce qu'il a semé. La seule façon pour moi que je connais de briser ça, c'est pour le pécheur de se repentir de son péché et de se tourner vers le Seigneur. Là, on récolte autre chose. On récolte la justice et la vie éternelle. Et mes amis, on ne se moque pas de Dieu. On a besoin de voir ce macro-Dieu. Mais vous savez quoi? J'ai besoin de plus que ça. Excusez-moi. Mais il y a quoi, 100 ans de cela, ou plus que ça, il y a 200 ans, je suppose, les grands penseurs de la Révolution française, cette époque-là, la Révolution américaine, ils disent, oui, s'il y a Dieu, Dieu, il a créé les cieux et la terre. Et puis, il s'est retiré. Et maintenant, en quelque sorte, il nous a dit, débrouillez-vous, faites de votre mieux. Et moi, je ne m'en mêle pas. Mais est-ce que c'est ça, vraiment, la volonté du Seigneur? Samuel, on prend le quatrième maintenant, le prochain. Non, parce que Dieu est entré dans notre monde. Ce n'est pas seulement un macro-Dieu. Ça, c'est celui après. Mais c'est un nano-Dieu. Ça, c'est un atome, si vous voulez poser la question. La plus petite partie d'existence, c'est l'atome. Et Dieu, il nous a vus dans ce que nous sommes. Il nous a vus dans tout notre péché. Il nous a vus éloignés de lui. Einstein, avec toute sa grande sagesse, ne pouvait jamais lier les deux mondes, le monde des choses grandes, le monde des choses petites. Il n'a jamais trouvé cette loi qui régnait sur tout, mais Dieu, dans sa grande sagesse, le macro-Dieu, est entré dans notre nano-monde, dans la personne de son fils Jésus-Christ, qui était aussi macro-Dieu, si vous pouvez comprendre. Dieu tout-puissant, Dieu qui a créé le ciel et la terre, pour moi, un miracle aussi grand ou plus grand que la création, c'était l'incarnation. Quand Dieu lui-même est devenu homme, tout en restant Dieu, le miracle de l'incarnation de Dieu, la conception de Jésus, miraculeusement, dans le ventre de sa mère Marie. Mes amis, c'est Dieu qui entre dans ce mot de molécule, si vous voulez. Parce que tant qu'il est plus grand que nous, il est venu chez nous. Il est venu pour vivre avec nous. Il est venu pour ressentir ce que nous ressentons. Il est venu pour savoir, pour aider. Parce que beaucoup de gens, vous voyez, dans beaucoup de religions, ils sont là. Mais Dieu, il est loin. Ils sont des idolâtres. Ils ont même peur de s'approcher de Dieu. Ils mettent des prêtres entre eux et Dieu. Ils mettent des idoles entre eux et Dieu. Ils mettent toutes sortes de choses parce qu'ils ont peur de s'approcher de Dieu. Quand Moïse a vu le macro-Dieu qui se manifestait, si vous voulez, sur la montagne de l'Ancien Testament, là, la montagne a tremblé. Il y avait le feu, il y avait des voix, il y avait le tremblement de terre. Et le peuple de Dieu dit, non, 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 Moïse, toi, tu vas parler avec Dieu. Laisse-nous, tu nous dis ce qu'il dit et on va le faire. Mais que nous ne nous approchons pas de Dieu, autrement on va mourir. Ça, c'est le macro-Dieu. Et en Jésus-Christ, nous pouvons nous approcher de Dieu. Parce qu'il a dit, nous ne sommes pas approchés d'une montagne qui est en fumée, qui brûlait, mais nous sommes approchés à la montagne de Dieu, là où trône de Dieu, au milieu des anges, on a assemblé plein de joie à Jésus-Christ, notre sacrifice, celui qui est venu pour nous sauver du péché. Mes amis, si vous ne pouvez pas être joyeux aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire pour que vous soyez joyeux. Dieu est entré dans ton existence. Dieu est entré dans mon existence, dans notre monde, par son Fils Jésus-Christ. Il a lié les deux mondes. L'inapprochable, l'inabordable, Dieu Tout-Puissant est venu jusque nous. Et qu'est-ce que ça veut dire, David? Ça veut dire que maintenant, nous sommes dans sa famille. Ça veut dire que maintenant, nous jouissons de sa proximité, son intimité. Moi, j'aimais tant de chrétiens qui sont contents d'une relation un peu froide, un peu distante. Écoute, Dieu vous a créé, Dieu a soufflé, il vous a insufflé de la vie. Vous n'êtes pas comme les anges. Vous avez quelque chose que eux, ils n'ont pas. Vous avez le souffle de vie de Dieu lui-même dans vos narines. Et surtout, quand vous êtes né de nouveau, vous êtes créé pour Dieu, pour son intimité. Dieu aime ta présence. Dieu aime être avec toi. Dieu aime passer du temps avec vous. Il est puissant envers nos besoins. Il n'est pas trop grand pour te voir. Là, dans ta maladie, il te voit. Là, dans ta dépression, il te voit. Là, dans ta situation de famille qui n'est pas possible. Là, dans ton couple qui ne marche pas. Là, dans ta situation avec le patron. Là, avec des gens qui sont autour de toi, qui te donnent toutes sortes de malheurs. Là, ta difficulté, Jésus est présent. La Bible dit qu'il a porté nos douleurs, il a porté nos souffrances, il a porté nos maladies. Et nous l'avons estimé comme rejeté par Dieu. Mais il était brisé par nos malédictions, par nos péchés. Il a porté le prix qui payait nos péchés. Lui, il a payé. Mon ami, Dieu est là. Si vous vous êtes éloigné de Dieu, il y avait une sœur dans la réunion ce matin. Et elle m'a dit, c'est là. Moi, je me suis éloigné de Dieu. Moi, je faisais des choses que je savais que lui ne plaisait pas. Mais moi, je me suis retourné vers le Seigneur. Je crois que dans cette réunion même ce matin, il y en a qui se rendent compte que le chemin qu'ils ont pris, peut-être vous avez connu le Seigneur. Peut-être vous avez été baptisé, mais depuis ce moment, vous vous êtes éloigné. Vous avez fait des choses que vous savez que ça ne plaisait pas au Seigneur. Et là, vous vous trouvez éloigné. Je vous encourage de tout mon cœur ce matin, réglez cette situation par la repentance et en revenant au Seigneur, en demandant pardon. Commencez de nouveau ce matin. Dis, Seigneur, pardonne-moi, je me suis écarté du chemin. Mais ce matin, je viens à toi. Ce matin, je sais que ce macro-Dieu est devenu le nano-Dieu. Il est entré dans mon existence en Jésus-Christ. Il est venu jusque moi pour me sauver, me pardonner, me changer. Il est là, mon ami. Si vous êtes malade, il a porté vos maladies. Si vous êtes dans la souffrance, si même mental, même dépression, il est là. Il a tout porté à la croix de Calvaire. Et le troisième journée, la même puissance qui a créé les cieux et la terre est entrée en Jésus-Christ qui était mort. Il est ressuscité. Et le jour où tu as mis ta foi en Jésus-Christ, il t'a ressuscité d'entre les morts spirituels. Et même ce matin, cette même puissance de la résurrection, elle est là avec nous, la puissance qui a créé l'univers, macro, est aussi disponible pour les nano-gens, si vous voulez. Je termine avec cette illustration. J'ai lu dernièrement, il y avait un homme quand son fils avait à peu près 3 ans. Il aimait bien son papa. Et assez souvent, quand il voulait, quand il est tombé, il se fait mal, il a couru vers son papa avec les bras ouverts. Il voulait que son papa lui serre dans les mains et il disait « Hoja, papa, Hoja ». Alors, Hoja, c'est un peu une corruption de la phrase « Hold me, dad, hold me, papa, hold me ». Ça veut dire « Prends-moi dans tes bras, serre-moi contre toi, j'ai besoin de ça ». Et le petit, chaque fois qu'il avait besoin d'être réconforté par son papa, il courait vers papa, il dit « Hoja, papa, Hoja ». Des années plus tard, un soir, le garçon, dans la trentaine maintenant, il est revenu du travail. Il trouve que sa femme l'a quitté, elle est partie avec un autre. Lui, il était laminé. Il téléphone à son papa, il dit, « Papa, puis-je venir? Puis-je venir? » Papa, « Bien sûr, bien sûr. » Il sort dans sa voiture, 5 heures de voyage. Il entre dans la maison de ses parents, il voit son papa. Il va et s'effondre dans les bras de son papa. Et le papa, il a dit, après toutes ces années, il entendait presque la voix du petit qui dit, « Hoja, papa, Hoja, prends-moi, papa, prends-moi dans tes bras. » Je crois qu'il y en a ce matin qui ont besoin de courir vers le Père pour dire, « Hoja, papa, j'ai besoin de toi. » Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, et tu mets ton nom? Pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel? Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, le macro-Dieu, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se laisse point. On ne peut sonder son intelligence. Jusque-là, oui, on sait, Seigneur, mais qu'est-ce que tu as fait pour moi? Il donne de la force, macro-Dieu, à celui qui est fatigué. Ça, c'est toi. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se laissent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le voile comme les aigles. Ils courent et ne se laissent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Est-ce que vous pouvez ce matin, on va prendre 2 minutes. On n'a pas beaucoup de temps, mais on va prendre 2 minutes. Je vous invite, si vous êtes fatigué, si vous êtes au bout, si vous devez revenir au Seigneur ou bien commencer une relation avec le Seigneur, si vous voulez une relation intime avec le Seigneur que vous n'avez jamais eue, si vous voulez vous approcher du Seigneur Jésus-Christ, je vous demande, s'il vous plaît, ce matin, levez-vous à votre place. L'équipe de louanges revient, mais on ne va pas chanter avec eux. Ceux qui se lèvent, je veux que vous levez les mains vers le Seigneur. Vous pouvez même, si vous voulez, dire, « Hoja, Seigneur, tiens-moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Prends-moi, j'ai besoin de ta guérison. J'ai besoin de ta force. Je suis au bout. J'ai besoin de ta guérison. J'ai besoin que tu m'aides dans cette situation. J'ai besoin de que tu fasses un miracle. Peut-être j'ai besoin de que tu me guéris. » Si c'est ça que vous voulez que le Seigneur fasse pour vous, je vous invite ce matin avec moi. Levez-vous, levez les mains vers le ciel et dites, « Seigneur, prends-moi. Prends-moi. » Est-ce qu'on peut le faire tous ensemble? Levez-vous. Merci, Seigneur. Alléluia. Hoja, papa. Hoja, papa. Tiens-nous, Seigneur. Tiens-nous, Seigneur. Tu vois, étends ta main même maintenant, Seigneur, pour la guérison de celui qui est malade. Même si c'est un cancer, Seigneur, touche cette personne que le cancer part de son corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a créé le corps, qui a détruit la mort. Seigneur, celui, celle qui est déprimée. Seigneur, tu laisses tomber de l'espérance dans le cœur. Tu laisses tomber de la joie dans le cœur. Qu'il y ait une semence qui tombe ce matin, Seigneur, qui va pousser pour porter récolte merveilleuse. Tiens-nous, papa. Tiens-nous, papa. Dites au Seigneur ce que tu veux, s'il vous plaît. Dites au Seigneur quel est votre besoin. L'équipe chante et nous, nous prions partout dans la réunion, tous ensemble. Dites au Seigneur de ce dont vous avez besoin. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur, tu vois ton peuple qui vient, qui court à toi ce matin. Qui court à toi ce matin. Prends-nous, Seigneur. Serre-nous dans tes bras. Guéris-nous. Donne-nous de la force. Donne-nous, Seigneur, une mentalité de gagnant, d'espoir, de joie. Guéris-nous, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur. Alléluia. 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 Et dis maintenant, Seigneur Jésus, merci. Tu m'as donné la force. Merci que tu m'as guéri. Merci que tu m'as donné un nouveau commencement. Merci, Seigneur, que tu es en train d'agir dans ma situation. Tu ne m'as pas oublié, macro Dieu. Tu es venu dans mon monde, dans le personne de ton fils Jésus. Je suis tout différent. C'est plus comme avant. Alléluia. Je suis différent. Ma situation même, tu es en train d'agir. Jésus, Dieu est entré dans ma situation. Merci, Seigneur. Vous pouvez reprendre votre place maintenant. Amen. Alors, je vois ni Élise, ni Yvonne. Je ne sais pas si l'enlèvement de l'église a eu lieu. Et ils ont été pris et nous avons été laissés. Ou... Non. Je voulais vous faire peur. Écoute, mes amis, pendant qu'ils viennent, n'oubliez pas que Dieu est pour vous. Répète sans cesse, répétez la semaine. Si Dieu est pour moi, qui sera contre? Dieu, tu es pour moi. Quand l'ennemi vient, dit non, Dieu ne l'a pas fait. Tu dis si, il l'a fait. Dieu est pour moi. Et si Dieu est pour moi, personne ne peut se tenir. Parce que c'est le macro Dieu qui est de mon côté. Mais aussi le nano Dieu.